France Culture.
À voix nue, Alexandre Amiel.
Richard Malka, avocat.
Premier épisode, les origines et une vocation presque par hasard. Bonsoir Richard Malka.
Bonsoir.
Le grand public vous connaît surtout comme l'avocat de Charlie Hebdo, mais au fil de ces émissions à voix nue, on va découvrir que vous êtes aussi un auteur prolifique et sous des formes très différentes. Merci de nous recevoir chez vous, ici à Paris. C'est un lieu calme, presque en retrait, loin de l'idée que l'on se fait souvent de vos combats. Ce qui frappe quand on entre ici sont des livres, beaucoup de livres, mais surtout des bandes dessinées, partout, sur les étagères, sur les tables et jusque sur les murs. Au point de se demander si on n'est pas dans la chambre d'un grand adolescent plutôt que dans l'appartement d'un avocat parisien. Des dessins, des planches, des images accrochées fièrement comme on affiche des convictions. J'ai intitulé cette série « La liberté comme religion » parce que votre parcours, Richard Malka, s'est construit autour de cette idée-là. La liberté d'expression, ce bien le plus précieux de l'homme, comme vous aimez à le rappeler, y compris quand elle choque, quand elle blesse, quand elle expose. Charlie, c'est l'irrévérence, la satire, la liberté de déconner très loin des bornes de la bienséance, du bon goût et de la morale. Mais Charlie, c'est aussi beaucoup de procès, des menaces, des attentats, et depuis 2015, des morts. Et pour vous, une vie sous protection policière, qui représente d'une façon tristement concrète le prix que vous êtes prêt à payer pour défendre cette liberté. Alors pour commencer, une question. Quand avez-vous compris pour la première fois que les mots pouvaient devenir une affaire de vie ou de mort, Richard Malka?
J'ai vécu dans l'insouciance quand même très très longtemps, en réalité jusqu'au 7 janvier 2015. Même l'épisode des caricatures de Mahomet, où là, les choses commençaient quand même à devenir sérieuses. À part Elisabeth Badinter, Philippe Val, un peu Cabu, on continuait à rire. On était encore dans une irrévérence assez joyeuse. C'était un autre temps, beaucoup plus léger qu'aujourd'hui. On prenait pas ça encore très au sérieux. On continuait à se marrer. J'ai vraiment pris conscience qu'on risquait notre peau quand certains ont perdu leur peau, c'est-à-dire le 7 janvier 2015. Et là, ça a été un basculement. Un peu avant, il y a eu l'incendie de Charlie Hebdo, donc bon, là, ça a été un premier épisode où même moi, même Luz, même les plus légers d'entre nous se sont dit « ça commence à sentir mauvais ». Mais véritablement, c'était inconcevable. Inconcevable, étant né dans une parenthèse enchantée, je suis né en 1968, j'ai vraiment vécu cette période de libération sur tous les aspects de nos vies privées, sexuelles, politiques, citoyennes. J'étais en plein dedans. Donc on pouvait pas imaginer que ça arrive. On était dans un pays libre qui revendiquait sa liberté. On était en France. On passait derrière Coluche, derrière des proches, le Luron. Derrière le Charlie, le Harakiri d'avant, c'était inconcevable.
Alors, on parlera longuement de Charlie Hebdo un peu plus tard dans ces entretiens, mais ce que je vous propose, Richard Malka, c'est de démarrer ce premier épisode d'À Voix Nue en vous invitant à vous dévoiler, ce que vous faites rarement. Et en commençant par revenir sur vos origines, alors si elles ne vous définissent pas, elles vous constituent quand même. Vos parents sont des juifs séfarades nés au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'eux, de leur parcours d'immigrés? Qui étaient-ils?
Des gens modestes, effectivement. Ils sont nés tous les deux à Meknès. Et puis, 1948, la création de l'État d'Israël, la situation des Juifs du Maroc, quand ils ne faisaient pas partie de la haute bourgeoisie, pour quelques rares d'entre eux, était quand même pas évidente. Ils vivaient dans un quartier réservé, parfois il y avait des descentes. Alors, on peut pas appeler ça des pogroms, mais il arrivait qu'il y ait des tabassages et parfois même un mort ou deux. Et donc, mon père, quitte le Maroc. Il travaille pour l'armée française à l'époque. Il est couturier. Il fait des uniformes pour la... Il a 15 ans. Hein. Et puis, quelques années plus tard, il décide de partir en France. Lui, il vient directement, il émigre en France quand la situation des Juifs au Maroc se tend de plus en plus. Ma mère, elle, à la création de l'État d'Israël, part avec toute sa famille, elle a 18 ans, en Israël. Et à l'occasion d'un voyage de mon père en Israël pour aller voir sa famille, il ramène ma mère en France. Alors ma mère rêvait du Luxembourg, du jardin du Luxembourg. Je l'ai mis dans une de mes BD d'ailleurs. Donc elle est très contente, elle connaît pas trop mon père, mais elle est très contente de venir en France se balader dans le jardin du Luxembourg. Et ils sont tous les deux naturalisés français, puisqu'ils sont, enfin, c'est vraiment des immigrés, ils n'ont pas la nationalité française, c'est pas l'Algérie, le Maroc, pour le coup. C'est pas une colonie, c'est un protectorat. Ma mère va élever ses trois enfants. Vous avez raison, hein. C'est pas ce que je préfère faire, parler de moi. Je l'ai rarement fait. Je suis assez pudique. Mais enfin, je m'y livre pour l'exercice. Ma mère va avoir trois enfants, va les élever, va pas travailler. Elle va commencer à travailler à 50 ans et ravie de le faire. Elle va devenir couturière une fois que ses trois enfants sont élevés. Et mon père, lui, est lui aussi couturier dans un petit atelier du boulevard Montmartre, où j'allais de temps en temps. Il était sur sa machine à coudre du matin au soir. Il faisait beaucoup d'heures supplémentaires pour arrondir un peu les fins de mois. Et il réalisait des manteaux pour femmes. Et donc, toute mon enfance, je l'ai passée au son de la machine à coudre, parce que même quand il revenait à la maison, il y avait une vieille singère sur une planche de bois intégrée. Et j'ai passé mon enfance à voir mes deux parents coudre des habits. Alors on aimait pas ça parce que c'était pas les, enfin moi en tout cas, je parle pour moi, c'était pas les habits de tout le monde. Quand on est petit, on veut être comme tout le monde. Moi, je sentais bien que j'étais pas comme tout le monde. J'avais pas les mêmes habits, je venais pas de ce pays, j'avais une autre culture. Mes parents parlaient arabe à la maison quand ils voulaient pas qu'on comprenne, parce que nous on comprenait pas du tout l'arabe. C'était pas la même religion. Donc il y avait une étrangeté, une singularité, mais c'était une famille modeste, hein. On était dans un tout petit appartement, mais on avait la chance d'être à Paris, rue du Chemin Vert, dans le 11e arrondissement, et j'avais deux grands frères, donc.
Alors, on va y revenir à vos grands frères, mais il y a un truc intéressant, c'est que dans votre famille, vous racontez qu'on parlait peu du passé. Comme s'il y avait un trou, un grand silence, ouais. Vous dites, entre les Hébreux de la Bible et vos parents.
C'est ça, entre Moïse et ma mère, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais vous n'avez jamais éprouvé, sinon le besoin, du moins la curiosité d'en savoir plus sur votre histoire familiale ?
Pas vraiment, en fait, j'en parle dans ma nuit au musée. Je cite une phrase de Voltaire qui dit que un homme sans passé a une âme qui ne s'use pas. Et c'est très vrai, en fait. C'est une page blanche. Il n'y a rien qui pèse sur mes épaules. Alors, il y a peut-être quelques milliers d'années d'histoire biblique lointaine, mais rien de très proche. Donc, je pourrais même pas vous dire exactement ce que faisaient mes grands-parents, que par ailleurs, j'ai à peine connu, puisque eux sont partis en Israël. Mon grand-père paternel est mort avant que je ne sois né. Il parlait pas la même langue que moi. Donc, les échanges...
Vous aviez quand même votre grand-mère qui, quand elle vous voyait arriver, vous prenait pour le messie.
Elle hurlait, et voilà. Et elle me prenait dans ses bras. Et puis, elle disait des choses en arabe que je comprenais pas. Et puis, elle pleurait. Et puis, elle me faisait des crêpes. pour moi, ma grand-mère, c'était ça. Mais je sentais son amour incroyable. Mais il y avait pas de discussion, parce que elle ne parlait qu'arabe. Elle ne parlait même pas hébreu, langue que, enfant, je pouvais un peu parler et comprendre. Mais donc, il y avait aucun échange possible. Autrement que par les gestes.
Alors, Richard Malka, vous grandissez dans le 11e arrondissement, vous venez de le dire. Vous êtes la première génération de votre famille à avoir le français pour langue maternelle. Et Est-ce qu'on sent ici le signe d'un nouveau départ? Comment est-ce qu'on se forge en tant que première génération née sur le sol français?
On se pose pas la question. Enfin, moi, je me suis pas posé la question. La question qui m'était posée tous les jours pour mes parents, c'était faut réussir, faut s'élever, faut travailler faut grimper l'échelle sociale. C'était ça l'alpha et l'oméga de ma construction. C'était celle-là. C'était pas, il y avait pas de problématique identitaire. C'est une chance d'ailleurs. Alors, toutes ces différentes identités en moi cohabitaient assez harmonieusement. Il y avait une culture juive très présente, mais il y avait aussi une culture française, ma langue, mon pays, celui où je vivais. Puis il y avait une culture arabe, parce que mes deux parents viennent du Maroc. Alors, à l'adolescence, on se demande un peu qui on est, mais c'est vite résolu, parce que d'abord, fallait réussir.
Mais d'ailleurs, vous dites que votre père avait une sorte d'obsession. Il comptait un peu les juifs dans la sphère publique, les juifs qui avaient réussi. Donc, est-ce que, du coup, ça vous a donné envie d'être de ceux-là, de ces juifs dont votre père parlait?
C'est inconscient, mais forcément, c'était la référence. Et alors, réussi dans tous les domaines. Il était fier, même quand c'était des grands gangsters américains. Alors, en fait, chez moi, il y avait la machine à coudre. Et puis, dans ce petit, tout petit appartement, où on était cinq, donc ça, il y avait la machine à coudre et la radio, tout le temps, allumée du matin au soir. Et donc, effectivement, à chaque fois que quelqu'un parlait, des humoristes, des politiques, mon père listait ceux qui avaient un nom à consonance juive ou ceux qu'il pensait être juifs, et il en était très fier. Parce qu'il y avait une fierté que ces gens-là aient réussi dans un pays d'immigration, en fait. Donc je pense qu'il s'identifiait.
Il se projetait.
Il voulait ça pour nous. Donc oui, j'ai été élevé comme ça. Donc forcément, ça a impacté. La méritocratie, c'est mon ADN.
D'ailleurs, vos parents étaient très attachés à la République, comme, j'ai envie de dire, beaucoup d'immigrés et à ses symboles. Votre père rêvait d'avoir un fils polytechnicien qui aurait défilé sur les Champs le 14 juillet.
Oui, en uniforme.
Et c'est un événement qu'il ne ratait jamais. Il se rendait jamais sur les Champs-Élysées, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve.
Il se levait à 6h du matin, c'était un grand jour, le 14 juillet. Soit il allait sur les Champs-Élysées, soit il était devant la télé religieusement. Oui, c'est émouvant. Parce que sa religion, c'était le judaïsme. Lui était, j'en ai jamais parlé avec lui d'ailleurs, mais il était croyant, il allait à la synagogue. Et puis c'était la République, une double religion.
Et est-ce que vous avez reçu ça comme un héritage en fait, ou est-ce que vous avez dû vous l'approprier, le retravailler?
Ça a été inconscient, ça n'a jamais été dit en quoi que ce soit. J'ai été quand même, pour le coup, élevé dans un climat très libre. On m'a jamais dit tu dois croire, tu dois être républicain. Non, ça s'est fait par osmose en fait. Un enfant, c'est une éponge, donc il prend. Et je voyais bien cette vénération envers les symboles républicains. Cette volonté farouche, mais vraiment farouche, de presque plus que de s'intégrer, de s'assimiler. On regardait Jacques Chancel, on regardait Bernard Pivot, religieusement, là encore, on voulait s'approprier la culture. C'est comme ça que j'ai... si j'ai un héritage, c'est celui-là. Ça explique ensuite probablement mon engagement, mes engagements. Mais j'ai été élevé dans cette culture très républicaine et en même temps aussi très juive, parce qu'il y avait constamment ces références. Mais très naturellement.
Parce que dans votre famille, vous parlez d'un rapport à la religion assez tranquille, en fait peu contraignant. Est-ce que cette religion apaisée, ça a compté aussi dans votre rapport ultérieur à la laïcité?
C'est certain. Alors, c'était en même temps très présent, et j'ai été à l'équivalent du catéchisme pendant des années. Bon, ça m'embêtait un peu, d'aller mercredi, dimanche, mais il y avait des cours d'histoire Et ça, j'adorais ça. Donc l'histoire biblique. Et ça, pour moi, c'était l'Iliade et l'Odyssée. Mais il n'y a jamais eu de prosélytisme, en fait, religieux. C'était culturel. Le judaïsme était davantage un judaïsme culturel que religieux. Et donc, je ne me suis jamais posé la question du rapport de mes parents à la religion. Je ne me suis jamais posé cette question pour moi-même. Quand on me demandait, par facilité, je disais que j'étais agnostique à partir de l'adolescence. Où on commence à comprendre un peu, à s'intéresser à ces choses. Et puis plus tard, mais beaucoup plus tard en fait, c'était tellement pas un sujet que à un moment je me suis arrêté dessus, vu que c'était quand même l'essentiel de mon travail, de travailler sur les religions. À un moment, ça l'est devenu. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas agnostique, je suis athée. Clairement et définitivement. Mais c'est venu tard. Peut-être il y a une dizaine d'années. Avant, c'était même pas une question.
En revanche, la dévotion sacrificielle de vos parents, est-ce que ça a suscité chez vous, Richard Malka, le sentiment d'exigence impossible à satisfaire?
Probablement, oui. Oui, c'est Sisyphe. On n'en a jamais assez. C'était tellement présent. C'était envoyé tant et tant et tant de sacrifices. Il y avait jamais un restaurant. Il y avait pas de cinéma. Tout était tourné vers la réussite des enfants. Pour mes parents, c'était leur vie en fait. Donc on ne peut pas rater. Il y a même pas besoin de dire, par exemple, tu ne redoubleras pas. C'était inconcevable, mais inconcevable. Je me disais que si je redoublais, ce serait la fin de ma vie. C'était pas une option. Et donc forcément, c'est mon ADN. Et ça crée c'est un moteur formidable. Ça, le complexe social est aussi un moteur. C'est un bouffeur.
Vous l'avez ressenti douloureusement?
Ah oui.
À quel moment de votre vie?
Ça oui, le complexe social, ça m'a formaté. Bah, on voit bien que les autres, ils partent au ski, c'est pas les mêmes vêtements, que on n'ose pas les faire venir à la maison parce que c'est pas les mêmes maisons. Donc oui, ça, je l'ai ressenti très très fort. Mais c'est une chance en fait. Tout ça est une chance. Effectivement, l'effet pervers, c'est que vous pouvez avoir, ça peut être une course sans fin. Il faut satisfaire une attente quasi impossible. Ça m'a donné en tout cas un sens, sans me poser de questions, ce qui est une chance, et un moteur pendant de très nombreuses décennies. Après, il y a un moment, on s'arrête et on regarde un peu en arrière, et voilà. Ça évite les états d'âme pendant longtemps.
Et pourtant, adolescent, vous allez au lycée Voltaire et vous vous décrivez comme dilettante, un peu indisciplinée.
C'est vrai. J'étais le troisième.
Parce que vous aviez des facilités à l'école ou parce que vous préfériez vous réfugier dans votre imagination?
Oh, parce que j'ai eu... oui, j'avais des facilités. Mais vous savez, les facilités, il y a toujours un moment où on arrive au bout. Et là, c'est dur parce qu'on ne sait pas travailler. Et moi, ça m'est arrivé en seconde, première. J'avais jamais travaillé de ma vie. Et là, c'est un choc parce que là, on ne sait pas comment faire. Et on est au bout de ce que permettent ces facilités. Donc, il n'y a rien qui remplace le travail. J'ai compris ça à ce moment-là. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. Je sais que, quels que soient les quelques talents que vous pouvez avoir, les quelques facilités, ça peut être un piège. Et je l'ai vu beaucoup chez les avocats, des avocats incroyablement, avec une facilité, une aisance oratoire incroyable, qui du coup ne travaillaient pas assez, et ça remplace pas, en fait, jamais. Ça a été une énorme leçon dans ma vie. Donc je ne sais plus quelle était votre question, mais c'était ma réponse.
Alors continue. Vos frères, eux, ils ont honoré clairement leur contrat de réussite en devenant médecin.
Moi non.
Je vous laisse libre de votre réponse. En devenant médecin pour l'un et ingénieur pour l'autre, est-ce que, dans votre construction, ils ont été des modèles, des repères?
Évidemment. Alors, mon grand frère avait 12 ans de plus. Donc là, pour le coup, il y a eu un grand écart d'âge. Il est vite parti de la maison. Mais oui, bien sûr, il était médecin spécialiste. Alors, il n'était pas chirurgien, ce qu'aurait aimé mon père. L'autre était ingénieur en aérospatial, mais pas polytechnicien, ce qu'aurait aimé mon père. Et moi, j'ai fait du droit, sans être énarque, ce qu'aurait souhaité mon père. Alors là, le droit, pour lui, c'était même pas des études. Parce que tout ce qui n'était pas scientifique n'était pas des études. Mais heureusement, ma mère me protégeait de son pessimisme et de son défaitisme, et donc a toujours eu confiance.
Et j'ai cru savoir que votre père, même s'il était dur avec vous, quand il allait à la synagogue, il était très fier et il se vantait de ses
trois fils. Alors c'était le genre de père qui ne disait jamais bravo, mais qui en réalité était très fier, mais très très pudique.
Vous avez gardé ça de lui?
Je tiens probablement ça de lui, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. C'est comme ça.
Alors, à un moment, après le bac, il faut bien trouver quelque chose à faire. Et au début, vous vouliez être journaliste. Et c'est l'écriture qui vous attirait?
Oui.
Et alors, comment vous vous retrouvez à faire du droit? C'est un hasard ou c'est une vocation?
Ça n'a jamais été une vocation. C'est complètement hasard. J'ai fait un bac C, donc un bac mathématique. Mais bon, c'était pas mon truc. J'étais d'abord un littéraire, je voulais écrire, mon mode d'expression c'est plutôt l'écrit que l'oralité, c'est comme ça. Et donc oui, je me voyais bien, s'il y a un travail que j'ai eu envie de faire, c'était effectivement journaliste. À un moment j'avais aussi pensé faire de la biologie, mais jamais du droit. Alors j'ai suivi, quand j'ai eu mon bac, bon, j'avais des inscriptions en école de commerce, et puis j'avais une copine qui s'inscrivait en droit, donc je me suis inscrit en droit.
Elle était jolie?
Elle était très jolie. Et donc je me suis inscrit en droit avec elle, et puis voilà. Mais ma bonne étoile m'a amené là où je devais être. Parce que, au final, je pense qu'il n'y a aucun métier qui convenait davantage à ce que j'étais que le métier d'avocat. Que je n'ai jamais voulu faire non plus. Même en faisant du droit.
Tout est à votre corps défendant, en fait.
À l'insu de mon plein gré.
Voilà, c'est votre côté Richard Virenque. Et donc, quand même, vous inscrivez à la fac de droit.
Ouais,
et
à
là,
Nanterre.
À Nanterre. Et là, ça vous intéresse? Il y a des profs qui d'un seul coup, vous donnent le goût du droit ou pas plus que ça?
Alors là encore, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du droit, par-dessus tout. C'est vraiment, en fait, au plus loin que je remonte, c'est toujours l'histoire qui me passionne. Oui, j'ai aimé l'histoire du droit, l'histoire constitutionnelle, et puis le droit parce que ça associait assez bien un côté un peu mathématique, très logique, cartésien, et un côté littéraire. Et donc, ça correspondait assez bien à ce que j'étais.
Et finalement,
je passe les années, alors c'était tranquille, hein. Mes parents pensaient qu'en fait je leur mentais, que je faisais pas d'études, tellement j'y allais pas souvent à la fac. mais c'est des années évidemment de bonheur, de légèreté, de fête. Et puis je suis de mouvement, tout le monde passe le barreau, le concours pour entrer dans l'école d'avocat, je le passe aussi, mais alors vraiment, en travaillant 2 semaines avant. Aujourd'hui, faut travailler des années, prendre des écoles privées pour préparer, rien de tout ça. Et puis j'ai le concours ric-rac, vraiment tout juste. Mais même en rentrant à l'école des avocats, je me dis toujours pas que je vais devenir avocat. Pense à être professeur de droit, à passer une agrégation. Mais là encore, je suis le mouvement. Je fais un stage en ouvrant le bottin. Je l'ai raconté ça aussi dans un livre, en pointant mon doigt sur, parce que je connais personne. On connaissait pas d'avocat dans ma famille. Je fais un premier stage comme ça.
Et puis qu'est-ce qui se passe en fait? À quel moment ce hasard devient une direction? À quel moment précis, Richard Malka, vous dites ce sera ça? Le droit, la parole, le combat judiciaire?
Jamais. Mais vraiment.
Même pas lorsque vous faites un stage à la 17e chambre du tribunal de Paris?
Même pas. Alors là aussi, c'est le hasard. Hein. Je suis à l'école d'avocat, on doit faire un stage en juridiction, et moi on me fout à la 17e chambre. Je trouve ça très 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 intéressant. Mais là encore, j'ai pas, pour être honnête, Bon, là, je suis à l'école d'avocat, donc je me dis que je vais quand même peut-être devenir avocat, mais j'en suis pas sûr parce qu'en même temps, je continue mon cursus universitaire, je fais un troisième cycle, et donc je continue à me dire que je vais faire une thèse et peut-être devenir professeur de droit. Mais le premier stage fait grâce au bottin m'amène à un deuxième stage au cabinet de Georges Kegeman, et là, il y a un truc qui se passe. Et effectivement, je suis dans le sein des saints.
Alors on va en parler demain longuement, mais en tout cas, jusqu'à ce stage, à aucun moment vous dites que vous allez faire ce métier d'avocat.
Non. Non.
Jamais.
Ça me passe par la tête, mais ce n'est pas une vocation. Je suis le mouvement, je suis mon étoile.
Vous êtes un suiviste, quoi. À ce moment-là.
Oui, parce que mais même quand je me dis que je vais faire avocat, je me dis que je vais peut-être faire de la fiscalité parce que j'aimais bien la fiscalité.
Ah oui.
Oui, parce que c'est des chiffres. Donc je retombais sur des maths. J'avais vraiment l'esprit pour ça. J'aurais été plus riche hein, si j'avais fait ça. Mais je me serais probablement moins amusé. Non, je me dis pas que je vais être avocat. Je me dis pas que je suis fait pour ça. L'oralité me fait peur.
Le complexe social encore.
Probablement. Je suis plus à l'aise à l'écrit. Et j'ai pas abandonné l'idée d'être journaliste. Moi, j'aurais pu être Alexandra Miel.
Ah oui. Ouais. Non, c'est bien, Richard Malka. Écoutez, Richard, on arrive à la fin de ce premier épisode. On verra donc demain que si le métier d'avocat n'était pas une vocation, vous allez pourtant l'embrasser pleinement. Lors de votre arrivée dans le cabinet de Georges Kegeman, dont vous nous avez parlé, vous avez trouvé sinon votre foi, du moins votre place. À demain, Richard Malka, pour la suite de ces entretiens à voix nue. À suivre l'épisode 2, Le goût du combat judiciaire.
À demain.
C'était à voix nue, réalisation Charlotte Roux, prise de son Maël Larfassor, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'Alexandra Miel, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.